Quelles sont ces sept grandes dimensions que vous entendez? C'est un rappel que je fais parce que quand même, il semble que vous avez déjà entendu parler de ça. Hein? Vous avez déjà entendu parler de ça?
Non.
Oui, peut-être qu'il y a deux ou trois jours. C'est tout à fait de dire ça. Donc pour les nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Allez, on va regarder les sept dimensions qui sont en nous. Première dimension, la nature. Nous avons un corps. C'est une dimension importante. Un bonhomme qui n'est pas bien dans sa peau, c'est pas un bonhomme. Il faut être bien dans sa peau. Oui, mais ça ne se commande pas, hein, tu me diras. Si je ne suis pas bien dans ma peau, j'ai une bosse, j'ai des boutons. Ou je louche, ou je zozote. Ça peut être bien dans ta peau. Je me rappelle quand j'avais, par exemple, 14-15 ans, que je sentais depuis 6-7 ans que je suis appelé au sacerdoce pour la vie consacrée, que j'allais à la messe, j'avais remarqué que tous les curés, ou bien ils louchaient, ou bien ils zozotaient, ou bien ils avaient des petits. C'est pas possible. Ça peut être bien dans sa peau. C'est effrayant, c'est vrai. Bien dans sa peau, il faut être beau. Sans mettre trop d'orange, trop de peinture, mais sinon, bien dans sa peau. C'est par le corps lui-même. C'est le corps lui-même qui est beau. C'est pas artificiel, c'est naturel, la beauté du corps. On doit être bien dans sa peau. Qu'est-ce que c'est, cette dimension? C'est spirituel, hein. Regardez la religion chrétienne elle-même, ça c'est de la philosophie, mais je vous fais une petite parenthèse. La religion chrétienne, vous savez, c'est la religion du corps. Et tous les sacrements, donc, c'est le sacrement du corps. Le mariage, c'est par le corps que c'est le sacrement. C'est pas autrement. L'Eucharistie, c'est le corps. C'est mon corps. Tous les sacrements. Le baptême, c'est une incorporation dans le corps, la mort et la ressuscité du Christ. On n'a pas compris ce que c'est qu'un corps. Hein. J'ai l'impression que. Oui, c'est pour ça que c'est important de faire la philosophie, parce que sinon, on rentre peut-être très difficilement dans le secret de la foi, de la résurrection, de la mort, des sacrements, de la sainteté. Eh bien, la sainteté, c'est un combat qui se vit par le point de vue du corps. Et voyez, philosophiquement, je reviens donc maintenant en philosophie, le point de vue du corps, c'est quoi? Le corps, c'est que nous sommes un homme est incarné, en ce sens que c'est un petit cosmos à lui tout seul. C'est une petite partie de l'univers. Nous sommes une partie de l'univers. Vous voyez, comme partie de l'univers. L'homme comme partie de l'univers. Nous sommes une partie dans un grand tout. Une petite partie. Et à chaque fois que vous faites partie, regardez par exemple quand vous faites partie d'une communauté, 60 quand vous faites partie, vous êtes une partie d'une communauté. Il y a un phénomène d'être une partie, c'est pas drôle. Souvent on se pose la question d'où vient la souffrance. Eh bien 70% de la souffrance, justement, ça vient du fait que l'oppression du tout par rapport à la partie. Il y a une souffrance qui est naturelle en ce sens que nous sommes une partie d'un tout. Le tout fait toujours souffrir la partie. C'est toujours comme ça. C'est normal. Partie d'un tout. Bon, il y a aussi beaucoup de souffrances qui viennent du péché, hein, qui viennent du mal, qui viennent de trucs, beaucoup, hein, énormément. Mais il y a une souffrance qui est bonne, elle est naturelle. Et bien, justement, au point de vue du corps. Le corps, c'est l'apprentissage de la souffrance. Vous voyez, par exemple, dans l'éducation des enfants, il faut apprendre à l'enfant à faire des sacrifices. Sinon, il ne sera jamais bien dans sa peau. De qui est petit. Bon. L'apprentissage de la souffrance, c'est ça. Vous voyez, c'est extraordinaire. Dès qu'on éprouve, quand on est une petite partie de l'univers, il y a une première transpiration, une première moiteur du corps. C'est très important cette dimension du corps. On doit respecter la nature, quoi. Hein, aussi, vous voyez, un autre aspect, ça. C'est très naturel. Et vous voyez bien que dans notre univers, on est un corps vivant. Notre corps est un corps complexe. Il n'y a pas de corps plus complexe dans tout le cosmos que le corps de l'homme. Très extraordinaire de voir ça. C'est la complexité la plus grande que vous puissiez trouver dans tout le cosmos, c'est votre corps. Dans tout le domaine de la souffrance, tout le domaine de la complexité, tout le domaine de l'unité aussi, parce qu'à vous tout seul, il y a un lien direct entre votre corps et tout le cosmos. Donc vous êtes responsable du cosmos. Il y a un lien. Et ce lien est physique, qu'on découvre terriblement aujourd'hui. On découvre beaucoup avec le New Age, le Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, c'est vraiment, entre autres, il y a trois grands aspects que on va voir tout à l'heure aussi. Le premier aspect est ici. C'est cette responsabilité physique directe entre votre corps et le corps tout entier de l'univers. À arriver à rejoindre le tout. Échapper, vous voyez, pour le New Age, c'est j'échappe à la souffrance de ma petitesse en l'investissant dans le tout. Alors, à ce moment-là, j'échappe à la souffrance. Tandis que nous, on n'échappe pas, on reste dans notre corps. Et c'est notre corps. Et notre corps assume l'univers pour l'offrir à celui qui est son corps, hein, le Saint-Esprit, le Père. Ça a un corps, à la Sainte Trinité, c'est extraordinaire. Bon, première dimension de l'homme. C'est la philosophie de la nature qui est derrière. Vous voyez, faites cette petite remarque pour essayer de commencer à devenir intelligent. Parce que c'est un peu ça qu'on essaye de faire. À partir de la philosophie du corps, enfin, je ne sais pas si je vais réussir à faire la philosophie de l'intériorité artistique, mais enfin, on va voir. Il faut quand même bien posséder son intérieur. Je vous ai dit ça si souvent que vous commencez à devenir intelligent lorsque vous êtes capable de faire la différence entre l'être et la vie. Ça, vous vous en rappelez, j'espère la plupart, sauf deux ou trois, soixante deux. Mais entre l'être et la vie. D'accord, oui. C'est la première préparation, mais la première activité de l'intelligence, on appelle ça une induction. Je vous l'écris, induction. Vous voyez ? Induction. On est conduit, d'où serait, à l'intérieur. Une induction. L'intelligence est capable de nous conduire à l'intérieur au principe. Donc je suis capable d'induire un principe, de trouver un principe réel. Je vais faire plusieurs, je vais vous les citer, les inductions principales que je voudrais que petit à petit vous puissiez faire automatiquement dès que vous le désirez. Mais pour l'instant, je crois qu'aujourd'hui, on ne pourra pas le faire. Hein. Ça, sûrement pas. La première induction, c'est celle que je vais essayer de faire maintenant. Les autres, on verra d'autres fois. La première induction, c'est l'induction de la forme, l'induction, la phusisme. L'induction de la, ça fait bien avec phusis, vous voyez, phusis. En grec, ça fait très bien, phusis. C'est de là que vient physique. Hein. C'est la dimension physique qui est en nous. Hein, d'accord. Deuxième induction, facile à faire, c'est pour ça. Il faut apprendre à faire des inductions. Parce qu'à l'école, on vous a appris à ne pas faire d'induction. C'est pour ça que moi, je voudrais vous apprendre à faire des inductions. La deuxième induction, c'est l'induction de l'âme. Alors, la psyché, n'est-ce pas ? La psyché. L'âme. C'est là que vient la psychologie. Psyché. Troisième induction, c'est une induction dans l'ordre métaphysique, c'est l'induction de la, alors là vous avez certainement entendu parler, de la substance. Et puis, après l'induction de la substance, l'induction de la. Voilà les quatre inductions. Bon. Pour faire l'induction de la substance, il faut avoir compris bien ce que c'était que l'être. Pour faire l'induction de l'âme, il faut avoir bien saisi ce que c'était que la vie. C'est pour ça que je vous ai dit, vous commencez à devenir intelligent lorsque vous voyez la différence entre l'être et la vie. Et donc pour ça, pour bien voir la différence entre l'être et la vie, il faut que vous voyez que quand vous avez induit, vous avez fait l'induction de la substance et l'induction de l'acte, c'est tout à fait autre chose que l'induction de l'âme. Donc si vous n'avez jamais fait l'induction de l'âme, ni l'induction de la substance, ni l'induction de l'âme, vous ne pouvez pas voir vraiment la différence entre la théorie. Donc vous n'avez pas commencé à être intelligent. Mais comme il faut savoir que c'est qu'une induction, il faut faire l'induction la plus facile, c'est l'induction de la physique. Ah! Alors, tout simple, c'est très simple. Regarde la nature, regarde tout le monde physique, regarde une fleur, regarde une plante, regarde un chien, regarde toi, regarde le cosmos, regarde une feuille avec ses nervures. Touche-la. Prends de la terre, respire l'odeur de la terre. Quand ça va mal, hein, on fait ça de temps en temps. Hein. L'intelligence nous dégage de nous-mêmes et nous met dans la vérité, dans la lumière. La vérité nous rend libres. L'intelligence, c'est la vérité. Donc, il faut apprendre à faire ces inductions. Spontanément, prête. Respirez l'odeur de la terre. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que vous voyez une réalité qui est physique, suppose un arbre, par exemple. Je me rappelle quand j'étais en Afrique, quand j'en avais gros sur la patate, après savoir, j'en avais trop sur le dos, tout ça. Eh bien, pratiquement dans le désert, avec tous ces gens, j'étais responsable, vous le savez, d'un camp de réfugiés de 100 000 personnes. Je devais nourrir, pauvre type. J'étais plus jeune que toi, hein. J'avais 22 ou 23 ans, je ne suis pas la langue du pays. Attends, pose la patate. Eh bien, comme il n'y avait pratiquement pas d'arbre, je voyais un arbre précipité dessus. Et je touchais l'arbre dans les trains. Je me suis rendu compte après que je faisais une induction sans m'en rendre compte, l'induction de la faucille. Comment est-ce qu'on fait? Vous voyez, toucher un arbre. Vous voyez, c'est une réalité bien physique, avec un corps. C'est physique. Vous touchez. Vous verrez que toutes les réalités physiques que vous touchez, touchez votre petit bébé, votre enfant, touchez-le. Touchez-vous, enfin. Touchez le chat, caressez-le, regardez bien cette réalité physique. Vous voyez, il y a plein de réalités physiques. À chaque fois que vous voyez une réalité physique, vous verrez que dans tous les cas, à chaque fois, à la fois, c'est matériel, on peut le toucher, c'est une matière, mais à chaque fois, c'est une forme différente. C'est jamais la même forme. Et c'est toujours matériel. Et la forme est toujours limitée. Elle est toujours précise. C'est pas... Je touche la forme à travers la matière. Et donc, tous, la grande division qui explique la nature, c'est que tout ce qui est naturel implique matière et forme. Et la forme. Quelle est la forme physique du corps de l'homme? Expliquez sa matière. Le corps implique une forme physique et une matière. À chaque fois que tu regardes la nature, c'est cette espèce d'extraordinaire. Tout ce qui est naturel, c'est de voir que dans tout ce qui est physique, dans tout ce qui est naturel, il y a tout l'intérieur, un principe qui fait que c'est une forme bien particulière, et qui fait que c'est une réalité bien physique. Ça a l'air idiot ce que je vous dis là, mais si vous réfléchissez bien, c'est pas si bête. Hein. C'est loin d'être idiot, hein, ça. Crois-le bien. Hein. Réfléchis, regarde, tout ce qui existe et qui est naturel implique matière. Et c'est un peu croisement entre les deux. J'ai bien avancé de savoir ça. Tiens. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à rien de savoir ça. C'est pour ça que tu regardes l'idéologie contraire, l'efficacité, le robuste compte, le positivisme. Ça sert à rien de faire une induction. Ça nous apporte strictement rien. C'est gratis. J'ai fais l'induction de la fausse. J'essaye, en regardant une réalité physique, de voir que la nature qui fait que c'est une réalité physique, c'est une nature forme dans une matière. Et qui a besoin d'une matière pour faire que cette forme soit une forme particulière physique. De l'intérieur de chaque réalité, il y a une fausse, une nature forme. Enfin, je ne peux pas faire l'induction à votre place, mais vous voyez, prenez pour ça 3, 4, 5 réalités physiques différentes, et voyez qu'à chaque fois, ça implique matière et forme, et du coup, pénétrez à l'intérieur de la réalité physique correspondante, et votre intelligence reçoit cette foussie, ce principe qui fait que cette réalité, ce principe, c'est la foussie, c'est la nature, forte, on appelle ça. Et bien, votre intelligence, quand elle pénètre dans le réel physique, naturel, elle saisit ce réel physique de l'intérieur, c'est une forme qui donne l'unité à cette réalité physique, et c'est une forme particulière. Ouais. C'est complètement, ça a l'air idiot, vous voyez ça. Pourquoi est-ce que j'insiste, pourquoi est-ce qu'il faut, c'est intéressant ça comme histoire. C'est intéressant pour mille raisons. On va regarder là, on regardera peut-être la question du corps une autre fois. Mais par exemple, je tiens à vous dire que par exemple les sacrements, vous voyez bien, les sacrements, c'est à cause de ça que dans les sacrements, comme la religion chrétienne, c'est la religion des sacrements, la religion du corps. Dans tous les sacrements, il y a une matière et une forme. Dans tous les sacrements, c'est la rencontre d'une matière et d'une forme. Vous avez su ça, vous voyez bien. Par exemple, pour l'Eucharistie, il faut du pain et du vin, c'est la matière. Et il faut une forme, c'est de l'intérieur, une forme nouvelle, fait vivre d'une manière naturelle ou surnaturelle, donne une nature différente à cette réalité matérielle. Donc, avant d'être une transsubstantiation, c'est une transformation. Et en tout cas, c'est une transformation. Au plan surnaturel, c'est une transformation. Au plan humain, c'est une transsubstantiation. C'est-à-dire, pour nous, c'est une transsubstantiation. Mais pour Dieu, c'est une transformation. C'est subtil, ça. Mais il ne faut pas t'inquiéter, tu vois, personne, hein, si vous n'y comprenez pas grand-chose, c'est pas grave. Hein, c'est petit à petit, c'est tout ça, bon, on comprend. Bon, tout ça pour vous montrer que quand même on pourrait regarder un jour la question du corps, mais faites de temps en temps ces petits actes spontanés de l'intelligence, essayez de regarder une réalité physique, et essayez de voir ce que vos intelligences perçoivent. Elles rentrent dedans, et elles saisissent un principe qui fait que cette réalité est comme ça. Alors là, vous avez fait une induction. Apprenez à faire une induction comme ça, c'est très intéressant. Ça fait vivre votre intelligence. Elle commence à devenir contemplative. Même le petit gosse qui regarde l'abeille qui est en train de butiner dans une rose, dans une fleur. Et le frémissement des ailes pendant ça, de très près. Hein. Oh là là, c'est extraordinaire, pendant 10 minutes sans s'arrêter. Et comme petit gosse de 300 regarde ça, il fait l'induction de la forme spontanément à ce moment-là. Surtout si celui qui est derrière, le père, la mère, est là, disant, regarde. Dès que tu sens qu'il pourrait lever la tête, si c'est un gosse qui est insupportable, faites comme ça. Bon, la deuxième dimension qui est en nous, c'est celle qu'on pourrait regarder, c'est le travail. Il y a un aspect génial en nous. Nous sommes des génies extraordinaires. Chacun d'entre nous est très original, une originalité. Il a sa marque particulière dans le monde, justement. Face à la matière qui est là, eh bien, il y a une marque particulière qui est propre à son génie à lui. Et il est irremplaçable. Et nous devons trouver justement, chacun d'entre nous, le petit artiste qui est en nous, le génie. Nous portons en nous quelque chose, nous devons mettre cette marque, apporter notre pierre, et elle est indispensable. ça que c'est très très mal de ne pas développer cette dimension, de ne pas trouver cette dimension artistique. C'est très bon pour le point de vue de l'éducation, pour ceux qui ont la vocation du mariage, c'est très bon que le gosse, eh bien, il fasse de la musique, de la peinture, de la sculpture, enfin qu'on voit un petit peu son, là où il est habile, là où il est doué, là où il est génial. Ça peut être des maths, hein. Mais enfin, pas trop sur l'informatique. Alors, troisième dimension, vous voyez comme c'est différent hein, d'être artiste, hein, la dimension d'artiste. Et puis, maintenant, la dimension, donc, contemplative. Nous avons une intelligence et la soif de vérité. La soif de vérité. Elle cherche la vérité. On voudrait voir, on cherche la vérité, ça c'est sûr. L'intelligence perçoit qu'il y a une vérité, que la vérité existe. Il n'y a pas des vérités. Ce n'est pas à chacun sa vérité. La vérité est quelque chose d'objectif. Mais on veut l'atteindre. Et on en est capable. Et on peut la contempler. Et la première grande vérité qu'on peut contempler et toucher, c'est la personne. Moi-même. Et tant que je n'ai pas trouvé en moi le lieu où la vérité jaillit, je ne suis pas une personne. La personne, on n'est pas une personne à l'âge de 4 ans, 5 ans. Hein. La personne, c'est quelque chose qui vient progressivement. Une personne, ça se construit. La personne, si tu veux, c'est ce qui se noue de l'intérieur et qui noue trois grandes dimensions qui sont en nous, hein, le corps, l'âme, l'esprit. Mais plus tu es contemplatif, plus ces choses se nouent. Et ça fait une personne. Parce que si ça part dans toutes les directions, c'est plus une personne. C'est le point de vue contemplatif. Et dès que tu descends toi et que tu réalises que tu es une personne, avec toute ta dignité, vous voyez, et tu es capable de rejoindre l'autre en tant que personne. Et donc, de regarder, vous voyez, le huitième commandement de Dieu. Tu ne mentiras pas. C'est un commandement d'amour par rapport au prochain. C'est un commandement d'amour par rapport au prochain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mentir. Ça veut dire qu'il faut aimer la vérité. Absolument. Pour être contemplatif. Ça veut dire que si tu regardes ton prochain, celui que tu aimes, si tu l'aimes d'une manière qui n'est pas contemplative, c'est un mensonge. Tu ne mentiras pas. C'est ça, ça. Quelqu'un qui aime son prochain de manière qui n'est pas contemplative, c'est un menteur. Si tu n'es pas capable de trouver en lui la vérité profonde de sa personne, dont lui n'a peut-être même pas conscience. C'est pour ça qu'on ne va pas s'appuyer sur les impressions. Hein. On s'appuie sur la vérité. Vous voyez, quelqu'un qui s'appuie uniquement sur ses impressions, il n'atteindra jamais la personne de l'autre. Ton impression, c'est quoi? C'est que c'est un couillon. Aucun intérêt. Superficiel. Et la personne, c'est pas ça. C'est contemplatif, tu vois bien que. Il y a une soif là-dedans qui va exploser peut-être un jour, c'est rien, mais pour l'instant, c'est ça que tu atteins. Tu atteins la personne. Il faut être capable de ça. Il faut le faire sur soi-même, évidemment, d'abord. Et pour ça, il faut avoir ce sens de la vérité profonde, intangible, irrenversable, incorruptible, qui est en nous et qui est à l'extérieur de nous. La vérité. Il faut être contemplatif. Quelqu'un qui n'est pas contemplatif est un homme qui est foutu. Dans le monde d'aujourd'hui, foutu. Et vous voyez bien que la contemplation n'a rien à voir avec la religion. Hein. Rien. Donc, ok. Bon, il faut être contemplatif dans la religion aussi, et dans la foi aussi, et dans l'horizon encore mieux. Bon. Ça va? Ben, vous voyez que c'est quand même pas pareil d'être artiste, hein, d'être génial, et puis d'être contemplatif. Mais là, c'est tout à fait autre chose. J'espère que vous sentez ça, quand même. C'est un processus intérieur différent. Vous voyez, par exemple, si vous êtes artiste par rapport à votre prochain, eh bien, vous êtes un bon éducateur. Vous vous lui apportez ce que vous avez de meilleur pour lui, du coup il se transforme et se bonifie grâce à ce que vous portez en vous. Et vous mettez votre marque sur lui. Quand vous aimez quelqu'un de manière artistique, vous êtes un éducateur. C'est pas de l'amour, c'est de l'éducation. Un bon permettre. Obéissance au responsable permet un clac, 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 clac. On coupe le sculpteur. Ça fait mal. Il y en a qui n'aiment que sous ce mode-là. C'est très grave. Hein. Faut que ce soit contemplatif aussi. Faut faire très attention. Mais si on ne sait pas la différence entre les deux, eh bien, on se réfugie sur le point de vue artistique uniquement. Ça peut faire des ravages. Mais le point de vue artistique est très important puisqu'il faut aimer l'autre avec toutes mes dimensions. Alors, le troisième, quatrième aspect de la dimension de l'homme, c'est le point de vue de la vie. Nous avons maintenant une vie intérieure. Ah, nous avons une intériorité. Vous voyez bien la différence entre quelqu'un qui est extraverti et quelqu'un qui est introverti. Tout est à l'intérieur, c'est l'intériorité. Quelqu'un qui n'a pas de vie intérieure, c'est pas bien. D'ailleurs, c'est à l'intérieur de cette dimension-là qu'on fait l'induction de l'art. Il faut que chacun d'entre nous, nous ayons touché en nous l'art. Sinon, le premier gourou qu'on va voir, hindou, je sais pas quoi, va dire que c'est extraordinaire, j'ai jamais entendu ça dans l'Église catholique, même avant le roi. Claude, Père Marie-Pierre, à côté de ce gourou. Fantastique. Fantastique ce gourou. Il m'a fait découvrir toute l'intériorité et qu'à l'intérieur de moi, il y avait une source de vie lumineuse. J'ai touché en moi la lumière. La différence qu'il y a entre être bien dans sa peau et être un bon vivant. Quelqu'un qui vraiment a profondément la vie d'un être lumineux. Vous savez bien ça. Et c'est vrai, vous voyez, quelquefois, je dirais, dans ces espèces de gens de l'Orient, même dans l'Église chrétienne, hein, les saints de l'Église, par exemple, orthodoxe, qui sont très branchés sur l'intériorité, eh bien, les manifestations théophaniques, les manifestations, j'allais dire, charismatiques ou de sainteté, ce ne sera pas du tout les mêmes styles de manifestations charismatiques que dans l'Occident. En Occident, on est beaucoup plus... vous voyez, Séraphin de Sarov, par exemple, les manifestations charismatiques de Séraphin de Sarov consistaient que quand il voulait, à se lever dans l'intériorité et faire déborder cette lumière, alors il se transfigurait et la lumière sortait, ceux qui étaient à côté d'eux étaient eux-mêmes transfigurés, visiblement. Charismatique, si vous voulez. Mais c'est d'une nature charismatique un peu différente, parce que c'est une structure très intérieure. La lumière, c'est tout le domaine de la lumière. Être un être lumineux, la vie. En moi, il y a de l'âme. Et l'âme, c'est une source de vie. Vous êtes capable de voir qu'en moi, du point de vue de la vie, c'est pas la position forme. Ça, c'est la première grande, extraordinaire. Je réalise que c'est tout à fait autre chose, la position forme et l'âme. Pourtant, c'est une réalité physique, et ce qui, de l'intérieur, vous savez, c'est cette position forme. Première induction. Deuxième, c'est à partir du corps. Je suis un être physique. Et maintenant, je suis un être vivant. Je vois que j'ai une intériorité, une vie intérieure. Et il y a une source de vie. L'âme est partout, la même forme que mon corps, du reste. La vie. Et ça donne cette unité vivante, c'est une lumière vivante. L'âme. Immatérielle.
Il faut que je sois capable de la toucher, de m'engloutir en elle, d'aller plus profondément encore qu'elle, en deçà de l'ego, si c'est possible, n'est-ce pas, pour trouver justement ce qui, dans cette âme, actue mon diaphane intérieur. Bon, c'est tout le bouddhisme, c'est ça. D'ailleurs, on va le voir, justement, c'est ça que je voulais vous parler, justement, la différence entre la structure d'intériorité à partir de l'âme, l'intériorité uniquement comme intériorité, l'intériorité de l'artiste, l'intériorité de l'amour. Il y a des processus d'intériorité qui sont différents. C'est ça que je voulais justement, c'est un peu vous montrer. Il faut qu'on soit lucide là-dessus. Parce que je peux très bien croire que j'aime, par exemple, mon prochain. C'est tellement intérieur, mon amour pour lui. Et je crois que je l'aime. Je suis convaincu que je l'aime. Et si c'est uniquement par une voie d'intériorité, par là, c'est pas de l'amour. C'est du bouddhisme. C'est du bon bouddhisme. C'est pas d'amour. Vous voyez, si par exemple j'essaie, en étreignant celui que j'aime, je l'étreins, et je profite de ce contact physique pour que mon âme pénètre, j'allais dire, et habite dans son corps, c'est grand, mais c'est pas vraiment de l'amour. Mais c'est une voie par l'intermédiaire de laquelle je dois vivre ça quand je suis dans le moyen, mais c'est une voie par l'intermédiaire de laquelle je peux réaliser la communion des personnes, où l'amour par ailleurs doit être présent. Vous allez dire, mais c'est bien compliqué, les mecs. Hein. Vous inquiétez pas, il faut l'avoir entendu une fois. Après, ça se fait automatiquement. Ce genre de distinction, il ne faut pas s'en rappeler. Il faut y réfléchir. Il faut l'avoir entendu une fois. Puis, dans le feu de l'action, le fait d'avoir été rentré dans cette sagesse, cette compréhension, fait que ça ressort, mais dans la pratique. Vous voyez, la forme est donnée par l'enseignement, et du coup, ça se concrétise dans l'acte, après. Ça n'est efficace que quand vous, après, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, parce que l'esprit travaille et il a besoin d'une sagesse. Il a besoin de la vérité pour pouvoir réaliser cette vérité et l'incarner. C'est à cause de ça qu'il faut recevoir un enseignement éducatif, contemplatif, philosophique. Et puis aussi surnaturel dans l'ordre de la foi. Les deux. Sinon on ne pourra jamais incarner la chose. Quand je lis la Bible, ça ne sert à rien, je ne comprends rien, etc. Pareil, c'est la même chose. Je ne comprends pas tout, ça, j'essaie de comprendre le maximum de choses. Et bien petit à petit, si vous prenez cette habitude, au bout d'un an, vous allez vous apercevoir qu'il y a toute la dimension surnaturelle qui fleurit, qui apparaît. C'est pas efficace tout de suite. C'est efficace humainement et puis surnaturellement, selon l'enseignement que vous recevez. Il faut les deux du reste. Alors. Donc, le cinquième aspect, je vais très vite, puisque, cher, hein, le cinquième aspect, c'est que nous vivons ensemble, et comme nous vivons ensemble, bon, on coopère ensemble, on a une vie de famille, quoi. Hein, la vie de famille, la vie politique, la vie sociale, on est solidaire, on doit coopérer. Dès que vous êtes dans une classe, à l'école, ou bien dans une ferme, ou dans une exploitation, ou dans une usine, ou dans un bureau, etc., ça se vient que c'est très important d'apprendre à vivre en commun. Et la manière de vivre en commun, c'est demander à celui qui est à côté de moi une coopération, et que moi je coopère. Il faut coopérer. On est responsable, non pas les uns des autres, mais on est responsable, ça c'est la dimension politique. Vous voyez comme c'est différent encore. On est responsable de ce pourquoi on a été rassemblés. Et on doit tous coopérer. C'est un processus d'intériorité aussi. Il y a des gens qui n'ont s'intéressé que cette intériorité-là. Des gens qui sont de bons maris, de bonnes femmes, etc. Mais sont de bons pères, voilà. Un bon père de famille. C'est tout. Hein. Pas du tout intérieur, pas du tout époux, pas du tout bien dans sa peau. Bon, l'adoration, encore une autre dimension, vous voyez bien. Alors ça, c'est tout à fait une autre intériorité encore. C'est le fait d'être en lien avec le Créateur, pouvoir l'adorer, le contempler.
Et ça, vous voyez bien que c'est une dimension, non pas d'amour de Dieu, mais une dimension d'amour du prochain. Si je m'approche du prochain alors que le Créateur est absent, ça veut dire que je ne l'aime pas, le prochain. Si vraiment je veux aimer le prochain comme personne, le Créateur doit être présent dans cette relation d'amour avec mon prochain. Et voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Trop difficile? Vous me suivez ou pas? Vous me suivez? Et la septième dimension, c'est l'amour. Et l'amour, vous voyez, c'est encore autre chose. C'est encore une autre manière d'approcher. Eh bien, quand on fait une communion des personnes, c'est dommage que je n'ai pas sept doigts, n'est-ce pas? Quand une communion des personnes, c'est mieux pour la fessise marie-reine, donc 5-5. Communion des personnes, eh bien, les sept dimensions de ta personne rejoignent les sept dimensions de notre personne en se nouant. Mais il faut d'abord que ça soit unifié dans ta personne, que tu rencontres l'autre en tant que personne, même si ce n'est pas apparent, parce qu'elle n'est pas encore éduquée en tant que personne, mais enfin, au moins potentiellement, ces deux personnes se rejoignent pour faire une seule. Une communion des personnes. La communion des personnes, c'est ces sept dimensions qui se rejoignent, c'est les deux qui se rejoignent dans un seul acte. Donc vous voyez bien que vous réfléchissez pas en disant, tiens, en ce moment d'abord, mon intériorité, encore, maintenant, etc., la contemplation, vous ne réfléchissez pas analytiquement, successivement, c'est tout ensemble. Et plus vous devenez une personne humaine, plus vous êtes lucide. Ça se fait sans que vous disiez, allez, j'appuie sur mon bouton, allez, hop, le corps maintenant. Le fait de l'avoir entendu, de l'avoir réfléchi, de contempler, de chercher, de supplier Jésus, de me nouer comme personne, de me donner l'unité, de me guérir, de me sauver. Jésus est le seul qui me sauve de l'intérieur. Le seul. Alors c'est pour ça que vous êtes ici. Et c'est ce que le papa dit. Vous, les jeunes, vous êtes venus à Chesterfield parce que vous avez compris que Jésus était le seul qui nous sauvait de l'intérieur. C'est pour ça que je répète cette phrase, je l'adore, j'aime beaucoup. Vous êtes le seul. Les jeunes ont compris que, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a que Jésus qui nous sauve vraiment de l'intérieur. Les autres nous sauvent toujours de l'extérieur. Et puis donc, ils nous sauvent partiellement. Bouddha nous sauve. C'est périphérique. C'est périphérique. C'est intérieur, mais c'est périphérique. C'est périphérique. C'est la psyché, c'est la psyché psychologique. C'est très, très extérieur. C'est intérieur, mais c'est périphérique. Que nous sommes, et mais radicalement les sept dimensions ensemble, Jésus seul. Vous voyez par exemple quand on communie à l'Eucharistie, vous n'avez jamais réfléchi à ça? Communier à l'Eucharistie, Jésus rentre à l'intérieur, le corps brûlant de Jésus, ressuscité. C'est de l'intérieur. Vous l'avez mangé, vous croyez que vous l'avez mangé? Pas du tout, c'est lui qui vous dévore. Et il ne nous dévore pas comme ça, comme nous on le dévore, il nous dévore de l'intérieur. Qu'il y a sept sacrements. Donc on est bien d'accord là-dessus. Sept. C'est pour ça que vous dites notre Père, et on fait sept demandes. À chaque demande du Notre Père, mais... première demande du Notre Père, vous demandez que votre corps soit pleinement, de manière plénière, corps. Deuxième demande du Notre Père, vous n'avez qu'à réfléchir à ça, vous verrez que c'est vrai ce que vous dites. Deuxième demande du Notre Père, que vous ayez une vie intérieure pleinement lumineuse. Troisième dimension, que l'amour soit vrai. Que votre quatrième coupe devienne contemplatif. Cinquième coupe, c'est tout donné à Dieu dans l'adoration. Et que ce soit vrai, une vraie adoration. Etc. etc. Bon, et bien donc on a vite, on va prendre un petit jus, et on aura à peine une demi-heure. Jusqu'à quelle heure j'ai le chapelet à quelle heure?
6h plus.
C'est pas 6h30?
Non, parce qu'on a 6h30, la messe après le 6h30.
Bon, je vous salue, Marie.